J'ai une question pour vous. J'ai besoin de votre aide ce matin, justement. Est-ce qu'il y a des jardiniers parmi nous? Ah. Bon, alors, si vous avez une question sur la prédication, allez voir ceux qui ont levé les mains. Hein. Alors, j'ai pris une photo que j'ai trouvée sur Internet parce que je me suis dit, si je mets notre potager à nous, je perds toute crédibilité tout de suite, vous n'allez plus m'écouter. Désolé, Nadia. Et j'avais une question justement pour vous, les jardiniers. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre à votre thé et vous installer à côté d'une plante et commencer à lui expliquer comment elle doit pousser? Ça est arrivé à quelqu'un? Ah, d'accord. T'as dit quoi? D'accord. Bon, si vous voulez parler aux plantes, vous pouvez. Mais finalement, qu'est-ce que vous faites pour faire pousser une plante? Vous l'arrosez? Oui. Il faut la planter, hein? Ah, parfois, il faut tailler, oui. Mais en fait, je vous propose de réfléchir un peu comme ça. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On la soigne, oui, mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est, si on rajoute de l'eau, par exemple, c'est parce que c'est trop sec, donc on enlève finalement un obstacle qui est la sécheresse. Si, par exemple, vous avez des mauvaises herbes autour, comme chez nous, vous enlevez un peu les mauvaises herbes, histoire que la plante que vous voulez faire pousser, elle passe par-dessus, en fait, donc vous enlevez un obstacle. S'il y a des cailloux, vous enlevez des cailloux. Mais en fait, finalement, on ne fait que enlever des obstacles à la croissance d'une plante, parce que finalement, vous voyez parfois que même dans le bitume, il y a une plante qui arrive à sortir, parfois. Et pourtant, personne n'a rien fait. Bon, ce n'est pas forcément les meilleures plantes, celles-ci qui sortent du bitume, mais quand même. Et dans la Bible, en fait, c'est assez intéressant de voir ça, c'est qu'en fait, souvent, la maturité spirituelle des chrétiens ou la maturité d'une église, en fait, elle est comparée au monde des vivants, végétal ou biologique. Vous voyez, par exemple, il est question de la croissance d'un enfant qui arrive jusqu'au stade d'un adulte, la foi qui est comparée à un grain de moutarde qui se transforme en arbre, ou par exemple l'évangile qui est partagé, un semeur qui sort semer. Ou l'Église qui est comparée à un corps humain, ou la transformation qui s'opère en nous à un fruit. Et beaucoup de comparaisons en fait se font avec des organismes vivants qui grandissent eux-mêmes par la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que parfois on se dit, bon, c'est parce que les gens à qui Jésus parlait, c'était des agriculteurs, beaucoup. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'en fait il y a quelque chose de vraiment particulier dans le monde biologique et vivant, et peut-être quelques enseignements qu'on peut en sortir, en fait. Et j'aimerais bien qu'on garde un peu cette trame-là, en fait, dans la façon dont on va aborder le texte. Vous savez, il y a deux principes vitaux, en fait. On appelle ça le potentiel biotique. Alors, ça vient du monde, justement, de l'agronomie. Et un organisme vivant a la capacité inhérente, donc ça vient de lui-même, en fait, de se reproduire et de survivre. Et ceci vrai pour l'Église. Le but est de mettre en valeur en fait le mécanisme divin de croissance plutôt que d'essayer de faire nos méthodes de croissance spirituelle, notre croissance d'église par nos propres forces parce qu'on va s'épuiser en fait. Nous n'avons pas à produire la croissance de l'église ou de nous-mêmes, mais plutôt de libérer finalement ce que Dieu a déjà mis en nous pour croître et ce qu'il a déjà mis dans notre église pour qu'elle puisse croître. Et il y a aussi le deuxième principe qui est le principe de lui-même. La croissance, en fait, elle arrive automatiquement. On n'a pas besoin de parler à la plante pour qu'elle puisse commencer à grandir, en fait. Elle le fera par elle-même. Les plantes dans les champs croissent, l'église croît, et c'est ce que Dieu accomplit par lui-même. Ça ne dépend pas de nous, finalement. Et je vous propose de nous poser quelques questions, en fait. Qu'est-ce qui doit être réalisé pour libérer le potentiel biotique par lequel Dieu veut faire croître l'Église? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Église grandisse par elle-même? Qu'est-ce qui doit être fait pour enlever finalement ces obstacles dont on a parlé qui retardent finalement l'œuvre de Dieu? Si par exemple, il y a la petite plante mais elle est noyée dans les mauvaises herbes, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vous propose pour accompagner cette réflexion un petit dicton que j'ai adapté. Vous savez, il y a un dicton africain qui dit « Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. » Moi, j'ai envie de vous proposer ça. Pour qu'un chrétien grandisse, il faut toute une église. Pour qu'un chrétien grandisse, il faut toute une église. Et nous souhaitons que dans notre ADN, notre Église grandit en maturité, chaque membre et l'Église tout entière. Et pour cela, je vous propose d'aborder ce texte de cette façon-là. La famille grandit ensemble pour ressembler à Jésus. Nous voulons ressembler à Jésus. Et il y a plusieurs moyens qu'on va voir dans ce texte. La croissance par la diversité, par le ministère, par l'unité, par la vérité et par l'amour. Et on va lire le texte qui se trouve dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 4. Et on prendra les versets 10 à 11. Donc, Éphésiens, c'est dans la deuxième partie de votre Bible. Vous passez les évangiles, Jean, Marc, et ainsi de suite. Vous passez Actes, Romains, Corinthiens et Galates, et vous êtes à Éphésiens. Et pour ceux qui ont la même Bible que moi, c'est la page 768. Donc, Éphésiens 4, à partir du verset 10. Tu pourras faire des filons. Merci. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je propose qu'on puisse prier avant de commencer à en parler. Oui Père, je te prie s'il te plaît que ce matin tu puisses nous rendre disponibles pour que l'on puisse t'écouter, que l'on puisse comprendre et que l'on puisse mettre en pratique ce que tu veux nous révéler ce matin. Je te prie que tu nous parles à chacun individuellement par ton esprit, que tu nous révèles ce que tu souhaites que nous fassions, peut-être les obstacles qui sont dans nos vies qui nous empêchent de grandir personnellement ou les obstacles qui empêchent de grandir notre Église. Seigneur, s'il te plaît, ne nous laisse pas sortir de ce lieu comme nous sommes rentrés, s'il te plaît. Parle-nous. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Oui, le premier point, c'est la croissance par la diversité. Et l'introduction est justement celui-ci, et c'est très important. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Jésus est venu vivre la vie que nous aurions dû vivre. Pour ça, il a abandonné le ciel de gloire, la présence de Dieu pour venir ici-bas, marcher avec nous, souffrir avec nous. Mais Jésus a connu les mêmes tentations que nous. Toutefois, il n'a jamais désobéi à Dieu, il n'a jamais péché. C'est une vie d'obéissance à Dieu dans tous les aspects de sa vie, les pensées, les actes, les paroles. Cette obéissance est allée jusqu'à accepter par lui-même d'aller être torturé, mourir sur la croix. Et cela pour une seule raison, l'honneur et la gloire de Dieu. Puis, il est ressuscité, et désormais, il est à nouveau dans les cieux, c'est-à-dire auprès du Père, dans la présence, dans sa gloire. Et Jésus, et c'est ce qui nous est dit là, Jésus a toute autorité, tout l'univers lui est soumis. Jésus a toute autorité et toute la puissance pour faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Et c'est là qu'intervient une déclaration qui est totalement surprenante après ça. C'est Jésus qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Jésus qui a tout pouvoir, il donne des hommes. Mais quel écart phénoménal! Le roi dans les cieux célestes, il envoie des hommes qui sont imparfaits. Et je vous propose deux remarques. Jésus, dans toute sa puissance, a choisi comme moyen des hommes imparfaits. Jésus donne ses personnes à l'Église. On reviendra sur les dons spirituels que Jésus donne à chaque chrétien après, mais là se trouve une déclaration vraiment remarquable. Là se trouve une déclaration vraiment remarquable. Jésus fait don de personnes à l'Église. On appelle ces personnes des ministères dons. Il est parlé des apôtres, et en fait ce terme veut dire les envoyés. Et dans le Nouveau Testament, en fait, ce sont des personnes que Jésus a choisies, a formées et a envoyées. Ils ont vu Jésus ressuscité, ils ont été formés par Jésus en personne, et ils ont été enseignés par Jésus, et c'est ceux qu'ils ont transmis aux églises. Ils ont accompli des miracles et des signes pour montrer la continuité de l'enseignement de Jésus. Et avec leur mort, la révélation biblique s'est arrêtée. Il n'y aura plus de nouveaux livres dans la Bible. Ils sont allés dans les lieux où personne n'est allé annoncer Jésus. Et il n'y aura plus personne avec le même ministère et la même portée qu'eux. Aujourd'hui, finalement, de ce ministère apostolique, qu'est-ce qui persiste ? Le fait d'être envoyé déjà, quand on envoie nos missionnaires, lorsqu'on encourage aussi des personnes à aller annoncer Jésus là où personne n'est allé, ou par exemple à faire un ministère pionnier, par exemple dans une région où il n'y a pas d'église. C'est des personnes qui vont partir et créer une église là où il n'y en avait pas. Ils vont aller rejoindre des peuples où jamais, en fait, par exemple, la Bible n'a été traduite dans leur langue et ils vont commencer à leur expliquer qui est Jésus. Après vient les prophètes, et le mot veut dire porte-parole, c'est-à-dire parler aux hommes de la part de Dieu. Ce sont eux qui ont été choisis par Dieu pour rédiger un certain nombre de livres, surtout dans l'Ancien Testament. Et ils annoncent la venue du Messie, ils communiquent ce que Dieu va faire, ils communiquent ce que Dieu attend des hommes. Mais surtout, finalement, quand vous lisez les écrits des prophètes, ils vont surtout rappeler, ils rappellent ce qui existe déjà. Ils vont expliquer et appliquer la parole de Dieu dans le quotidien des personnes, dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Et pour cela, ils expliquent, ils encouragent et ils confrontent. Ce sont des personnes, ils vont te dire, dans ce domaine-là, ça ne correspond pas à ce qui est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'avoir de nouvelles révélations de Dieu, on l'a déjà vu, concernant son intention ou connaître mieux le Messie. On a déjà la chance d'avoir toute la révélation biblique. Et là-dedans, vous avez toute la parole de Dieu, tout ce qui est utile. Dans le Nouveau Testament, en fait, il y a des prophètes qui continuent à être là. Et finalement, c'est l'application de la parole de Dieu à des situations de vie personnelle ou à des situations de vie d'église. Cela se passe par les prédications, qui doivent avoir une portée prophétique. C'était ma prière, c'est qu'on ne ressorte pas sans avoir eu une parole de Dieu, quelque chose qui nous correspond à nous personnellement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé justement de sortir d'un lieu en vous disant ce qui a été dit, peut-être par les chants, peut-être par le prédicateur ou par la présidence, ça correspond exactement à ma situation de vie, ça correspond exactement à mes pensées. Et je nous souhaite à chacun de pouvoir vivre des temps comme ça, parce que c'est vraiment des temps où on voit bien que Dieu, il a tout pouvoir, il nous connaît parfaitement. Et cela se vit encore aujourd'hui aussi par des relations personnelles. Lorsque nous parlons d'une situation de vie entre frères et sœurs, nous cherchons à trouver dans la Bible ce qui est enseigné sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique aujourd'hui, dans la vie d'une personne précisément ? Et cela est particulièrement recherché, par exemple, quand vous discutez avec les pasteurs, les responsables spirituels de l'Église. En fait, il y a cette demande à Dieu de pouvoir vraiment avoir une parole précise, une parole qui a toute son autorité de la Bible et qui s'applique dans la vie d'une personne. C'est parfois vis-à-vis d'un texte biblique ou parfois c'est une réflexion biblique, c'est pas forcément mot à mot, mais que ça vienne de Dieu et que ça soit appuyé sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui est recherché lorsqu'on accompagne des personnes. Nous ne disons pas « Dieu m'a dit », parce qu'en fait ça voudrait dire qu'en fait on prend nous-mêmes autorité, en fait. Mais en fait ce qu'on veut dire c'est que c'est la Bible qui a toute autorité et c'est notre façon de le comprendre. Mais nous cherchons à ce que ce soit l'autorité de la Bible qui s'applique dans la vie des personnes. Ça peut être une phrase d'encouragement, un verset biblique, une réflexion biblique, mais toujours dans le but de l'édification d'une personne ou de l'Église. Donc ça veut dire que ça puisse permettre de construire la vie, que ça puisse permettre de redresser ceux qui étaient à terre. Ça n'a jamais pour but de détruire ou de casser ou de faire du mal. Puis les évangélistes. L'évangéliste est celui qui proclame la bonne nouvelle de l'évangile. Et un évangéliste, en fait, finalement, il a cette capacité de présenter l'évangile et d'affermir dans l'évangile. C'est-à-dire que l'évangéliste, ça ne consiste pas seulement à simplement dire des vérités bibliques, à sortir sa Bible et à commencer à les réciter, mais à les rendre accessibles aux personnes qui nous entourent dans leur conception du monde. L'évangéliste a la capacité en fait de rejoindre des personnes dans leur réalité, de présenter l'évangile de manière percutante, que ça puisse répondre à leurs besoins. Et nous sommes tous appelés à présenter l'évangile, mais les évangélistes sont littéralement imprégnés de ce don. Ils peuvent s'adresser à des enfants défavorisés comme à des hauts fonctionnaires d'un État. Par exemple, l'exemple de Paul est vraiment significatif, je pense, dans la Bible, mais on connaît tous, je pense, des personnes qui ont un peu ces capacités-là, comme par exemple frère André ou d'autres personnes. Et ils peuvent, du coup, à la fois eux-mêmes exercer ce ministère, mais ils peuvent aussi emmener toute l'Église à l'exercer à leur niveau, en les formant, en les accompagnant, en étant là pour les encourager, en leur disant « tu peux le faire avec la force de Dieu ». Puis vient les pasteurs et les enseignants, et il y a un débat de théologiens à savoir si ce sont deux ministères dons différents ou est-ce que c'est pasteur-enseignant. Et ce matin, je vous rassure, on va laisser ce débat fermé pour nous concentrer sur qui ils sont, ce pourquoi Dieu les donne à l'Église. Finalement, un berger, ce qu'il va faire, c'est un peu sur le même principe qu'un berger qui va guider des moutons, des brebis, il va guider vers des lieux propices, des lieux sécurisés. Il va protéger le troupeau, il va éviter que le troupeau se divise ou qu'il soit blessé. Il va ramener ceux qui sont égarés et il va les nourrir en les guidant vers une nourriture qui correspond à leurs besoins. Ils n'ont pas forcément besoin de la même nourriture au printemps qu'en hiver. L'enseignant est un maître, quelqu'un qui a des connaissances et qui sait les transmettre, mais parfois même des choses complexes, afin que chacun puisse les acquérir et se les approprier dans le but de le mettre en pratique. Savoir plein de choses, c'est bien, mais les mettre en pratique, c'est beaucoup mieux. Et c'est à ça que sont appelés à faire les bergers, les enseignants. Et nos leaders sont des dons offerts par Jésus après sa victoire. Donc ne dénigrons surtout pas le fait que Dieu, dans toute sa puissance, a donné des personnes malgré qu'elles soient imparfaites. Il donne des responsables, des leaders à l'Église, et en fait, il faut vraiment le voir comme le roi qui fait des cadeaux à son peuple. Dans la pensée du texte, ce n'est pas l'Église qui fait d'une personne un apôtre, un envoyé, un prophète, un messager, un évangéliste, un proclamateur, un pasteur, un guide, un enseignant, un pédagogue, mais c'est Dieu qui les forme pour cela, dans qui ils sont, dans leur caractère, dans leur connaissance, dans leur sensibilité. Et c'est à l'Église de les repérer, de les reconnaître, de les encourager et de les suivre. Dieu donne à l'Église une diversité de personnes que lui a choisies pour nous emmener son peuple à la maturité, à l'unité et à la croissance. Pour grandir, l'Église a besoin d'une diversité de leaders qui sont consacrés. Alors peut-être pour toi qui es leader dans cette Église aujourd'hui, as-tu conscience que Dieu t'a confié une tâche particulière pour son Église ici ? Es-tu conscient que ton ministère dans l'Église doit susciter la croissance de l'Église ? Peut-être question personnelle, mais quand, pour la dernière fois, as-tu prié que Dieu t'utilise à 100% pour son œuvre ? As-tu conscience que ton ministère et ton leadership doit se mener focalisé sur la croissance de l'Église. Pour nous, en tant qu'Église, quand avons-nous pour la dernière fois prié pour les leaders de notre Église ? Les anciens, le conseil d'administration, les responsables de l'enfance, des jeunes, des responsables techniques, quand avons-nous prié pour eux pour la dernière fois ? Les avons-nous reconnus aussi comme des personnes que Dieu a mises à disposition de notre Église ? Est-ce que nous chipotons sur les détails de leurs propositions, de leurs décisions, selon nos points de vue personnels ? Ou est-ce que nous vérifions bibliquement leur pertinence et les aidons à le mettre en pratique ? Quand avons-nous eu une parole d'encouragement pour eux ? Une parole personnelle, vous savez, quand on pose la main sur l'épaule et qu'on lui dit « Merci pour ce que tu as fait, ça m'a encouragé ». Beaucoup de nouveaux leaders se sont levés dans notre Église ces dernières semaines, ces derniers mois, pour relever les défis que Dieu place devant nous. Et dans les semaines qui viennent, nous allons prendre le temps de les présenter à l'Église et nous allons prier pour eux, prier pour leur famille, prier pour leur ministère, pour que Dieu les utilise pour l'avancement de l'Église et de son royaume ici. Dieu crée la croissance par la diversité. Dieu utilise ce qui est imparfait pour réaliser une œuvre qui est magnifique et une œuvre qui est parfaite. Mais il n'a pas oublié les autres. Il ne parle pas que des leaders. Un leader ne doit pas tout faire par lui-même. Au contraire, il doit libérer les membres de l'Église pour le service et l'édification, la croissance par le ministère. Jésus l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Et en 1 Corinthiens 12, il nous a dit cela, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Et dans 1 Pierre 4, 10, il est dit cela, « Comme de bons dispensateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu et qui doivent redonner, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Chaque disciple de Jésus a reçu un don. Tu as reçu un don de Dieu, c'est certain. C'est écrit à plein d'endroits dans la Bible, il n'y a pas de doute, tu as un don. Et ce qu'il nous a invités à faire, c'est que chacun se place à disposition de l'Église pour que l'Église se construise. L'Église est en pleine croissance lorsque chacun est à sa place. Chacun est responsable de l'utilisation du don que Dieu lui a confié. Il n'est pas pour toi ou il n'est pas pour moi, mais il est pour toute l'Église. Les dons sont toujours destinés à l'Église. Voici quelques-uns des dons finalement qu'on peut trouver dans Romains 12. Et cette liste est loin d'être exhaustive. Hein. La prophétie, le service, l'enseignement, l'encouragement, la capacité de donner, donc la libéralité, la capacité d'administrer, de gérer des ressources financières, du temps, des bénévoles, aider les personnes en difficulté en les accompagnant dans les situations difficiles de leur vie. Et j'ai choisi cette liste pour bien montrer qu'il n'y a pas de don plus spirituel qu'un autre. Tout ce que tu fais dans l'Église, que ce soit des tâches pratiques, comme le ménage, la sono, la vidéo et peu importe, comme la prière, l'enseignement, sont spirituels. Il n'y a pas de niveau. On a des responsabilités différentes, mais il n'y a pas de niveau dans le service. Tout ce que tu fais pour l'Église est spirituel. Tout ce que tu fais pour l'Église contribue à ce que l'Église grandisse. Et les leaders sont là pour t'aider à mettre les dons que Dieu t'a confiés au service de l'Église. Souvent, les dons et leur utilisation évoluent aussi dans le temps, et je pense qu'il faut qu'on se le dise aussi. Dieu nous redirige vers les besoins actuels de l'Église. Peut-être on fait quelque chose depuis longtemps, mais Dieu, il voit qu'aujourd'hui, l'Église, elle n'est pas comme il y a 5 ans. Ou aussi, parfois, notre situation évolue personnellement. Peut-être il y a 5 ans, tu étais célibataire, aujourd'hui, tu as une famille de 4 enfants. Bon, c'est un bon rythme, quand même, déjà. Peut-être aujourd'hui tu aimes faire l'accueil, mais aujourd'hui Dieu te conduit à accompagner des personnes, à te former pour cela. Peut-être tu aimes être gestionnaire et aujourd'hui Dieu te conduit à un ministère d'encouragement. Tu aimes être animateur des préados, mais peut-être aujourd'hui il est temps de devenir animateur des aînés. Oui, en fait c'est la technique. En fait, si vous voulez rester dans le groupe de jeunes, c'est qu'en fait une fois que vous sortez du groupe de jeunes, il faut devenir responsable du groupe de jeunes. C'est la façon d'y rester. C'est la technique. Tu confirmes, Lucas ? Et justement pour ça, on a besoin de s'encourager, de prendre des personnes avec nous en binôme pour gérer, on va dire, ces transitions. Et lors d'une pastorale, un ancien pasteur fondateur d'une église qui a beaucoup grandi a déclaré cela. Le vrai succès est de trouver son successeur. Le vrai succès est de trouver son successeur. Les leaders ont pour mission d'aider chaque personne à s'intégrer au corps, de former leurs successeurs, d'avoir des personnes avec qui ils travaillent en proximité, afin que le corps profite de ce que Dieu leur a confié. Nous voulons, dans l'Église, favoriser cela en accompagnant personnellement les nouveaux membres de l'Église de façon systématique, à les accompagner à trouver leurs dons, les former pour le développement de leurs dons et leur utilisation dans l'Église. Et on fera de même pour les membres qui sont là peut-être depuis plus longtemps, afin que chacun puisse vraiment contribuer au maximum de ce que Dieu leur a confié. Parce que c'est vraiment une joie d'être là où on sent que Dieu nous appelle. Nous souhaitons accompagner chacun à trouver un service dans lequel Dieu puisse l'utiliser. Un service qui nous fasse prendre du plaisir, même si ben, je pense que tous ceux qui servent dans l'Église le savent, ce n'est pas tous les jours facile. Mais Dieu nous donne un plaisir même dans les difficultés. Il sera possible de découvrir un service et d'échanger avec le responsable après quelques fois pour vérifier si c'est le bon lieu. Ce n'est pas parce que tu testes une fois que tu vas rester pendant les 5 ou 10 prochaines années dans le même service. Même si on veut de la stabilité, on peut essayer et voir si c'est le bon endroit. Nous souhaitons libérer chacun dans son ministère, former des équipes de responsables, une nouvelle génération de leaders pour qu'ils soient intégrés pleinement à la direction de l'Église, afin de grandir dans la diversité, pour qu'on soit de plus en plus pertinent avec les personnes qui se trouvent à l'extérieur de ce lieu. On est peut-être 100, peut-être 120, peut-être 130 dans ce lieu, mais autour de nous, c'est des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas d'Église. Les personnes que nous libérons et formons feront des choses différemment de nous. C'est le principe de la diversité. C'est vrai que parfois, c'est un peu douloureux sur le moment de se l'avouer, mais les leaders, finalement, ce qui les unit, c'est qu'ils doivent veiller à trois choses. Des membres sont en cours de formation. L'implication de chacun contribue à l'édification et la croissance de l'Église. Et des progrès évidents sont visibles parmi les membres et l'Église selon le plan divin. Pas le nôtre, selon le plan divin. Puis aussi, question de perfectionnement. Vous savez, j'ai discuté la dernière fois avec un pasteur, il me disait qu'en fait, il y a des saisons de conquête, des saisons de formation, des saisons de consolidation. Et aujourd'hui, je pense qu'on rentre dans cette session de formation. Plus en plus de personnes qui viennent, et en fait, on se rend compte qu'on a vraiment des difficultés à suivre chacun, et qu'on a besoin d'avoir des personnes qui sont remplies d'Esprit Saint, et qui sont disponibles pour être à l'écoute de la parole de Dieu, pour accompagner d'autres personnes. Nous avons besoin de faire des progrès au fur et à mesure du temps. On n'est pas là pour faire des exploits, on est là pour progresser au fur et à mesure du temps, sous la conduite de Dieu, pour faire de mieux en mieux pour la gloire de Jésus seul. Pour être de plus en plus en capacité de faire découvrir l'Évangile de manière pertinente à tous ceux qui ne sont pas dans ce lieu. Même les apôtres, vous savez, ce sont des personnes qui ont été formées personnellement par Jésus. Ils ont marché des kilomètres avec lui, ils ont passé plein de repas avec lui, ils ont dormi avec lui. Et ils ont reçu en plus une capacité particulière qui est de se remémorer des enseignements de Jésus. Et pourtant, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé à l'Église d'être déchargée de certaines tâches pour consacrer du temps aux Écritures et à la prière. Si eux ont eu besoin de faire ça, je vous assure que nous aussi on a besoin de le faire. Et le premier lieu pour apprécier notre niveau de consécration dans notre tâche est le temps que nous y consacrons. Pas seulement à la faire, mais le temps que nous y passons à les préparer. La préparation est importante, c'est un lieu de formation. Les temps que nous consacrons aussi à notre formation et à notre perfectionnement font partie de notre ministère. Ce n'est pas quelque chose en plus pour ceux qui sont plus spirituels ou ceux qui ont plus de temps, c'est indispensable. Imaginez un peu ça. Vous allez chez votre médecin et en fait vous vous rendez compte qu'en fait depuis 1980, il n'a jamais appris le nom de nouveaux médicaments. Il n'a jamais poursuivi sa connaissance continue. Il continue à vous donner des médicaments qui datent de presque 40 ans. Il ne s'est pas formé. Qui veut continuer d'aller chez lui? Nous avons besoin d'investir du temps dans la formation continue dans le domaine de notre service. Si c'est la musique, formons-nous à chanter, à jouer de mieux en mieux. À composer peut-être un jour. À la sono, pas juste connaître peut-être la technique, mais commencer à gérer les harmonies, à connaître les instruments. L'accueil, avoir une façon de toujours plus chaleureuse, toujours plus biblique d'accompagner l'accueil, le ménage, en rendant les locaux de plus en plus accessibles, de plus en plus attractifs, avec de moins en moins de microbes. L'enseignement des enfants et des adultes, travailler sur la pédagogie pour que chacun puisse comprendre. En plus de mieux comprendre la Bible, bien sûr. L'accompagnement des personnes, avoir une formation, pas juste pour savoir qu'est-ce qui est dans la Bible, mais comment le présenter de manière à ce que la personne puisse l'accepter. Vous savez, les sportifs, et surtout par exemple pour la course à pied, ils s'entraînent pour qu'à chaque course, ils soient plus efficaces et plus endurants. Et moi, j'ai envie de nous dire, mais soyons des serviteurs pratiquants. Avec au moins la même consécration dans notre ministère que dans nos loisirs. Et j'irais même jusqu'à dire que dans notre métier séculier. On ne peut pas rivaliser en temps avec notre métier séculier, mais est-ce qu'on y met le même punch que dans notre travail, dans ce qu'on fait pour la gloire de Dieu ? Tout ce que vous faites, que vous mangez ou buvez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on aime bien faire des apéros d'ailleurs. L'édification, ces paroles peuvent sembler dures, mais je vous invite vraiment à les méditer, non sur ce que Sylvain dit, mais vraiment à vous dire, est-ce que c'est la Bible qui enseigne ça ? Vérifiez. Et si c'est le cas, mettons-nous en chemin. Nous sommes chacun responsable du fait que notre Église grandisse en maturité. C'est pas seulement les responsables de l'Église. On est aussi en charge de veiller à ce que dans nos familles, Jésus soit de plus en plus central dans nos décisions, dans notre gestion du temps, dans notre gestion des finances. Ce texte nous rappelle que pour cela, Dieu utilise notre ministère, nos dons, pour une œuvre qui est grandiose. Le roi de l'univers nous parle de choses qui sont finalement assez pratiques. Ne pas s'intégrer dans cette perspective, je vais être assez direct, mais finalement c'est un peu gâcher ce que Dieu nous a confié. Quelque chose de précieux pour notre Église, mais ce n'est pas le moment de culpabiliser. Aujourd'hui, c'est le jour pour prendre un nouveau départ dans notre ministère. Il n'est pas trop tard et loin de là pour contribuer à la croissance par notre ministère. Aujourd'hui, c'est le jour où peut-être on peut prendre cette nouvelle décision. Demander pardon à Dieu, parce que parfois c'est nécessaire, mais regarder vers l'avenir et se dire « Maintenant, je veux le servir avec consécration. » Et la croissance, elle se fait aussi par l'unité. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, une équipe de leaders bibliques encourage et forme les membres au ministère. Et cela produit la croissance par l'unité et la maturité. Même si par moments elle est malmenée, l'unité que Jésus produit dans son Église est surnaturelle. Et je vais vous proposer justement une illustration biblique de cela, enfin juste après. Une fois, on me racontait ça, un maire a été invité dans une église pour un événement un peu spécial, vous savez, un peu comme nous, les 30 ans. Et lorsqu'il a pris la parole, en regardant les membres de la salle, il a dit « Je suis jaloux ». Je suis jaloux du fait que l'Église réussit à rassembler des personnes de cultures différentes et de tous les âges. Sa municipalité, elle investit des milliers d'euros pour des événements qui sont ponctuels, alors que dans l'Église, les personnes se rassemblent par eux-mêmes, chaque semaine, spontanément. Personne d'autre ne peut faire ça, si ce n'est Jésus. Et c'est une vérité biblique et importante. Nous ne pouvons pas produire l'unité par nous-mêmes. En Jean 17, Jésus, avant de se rendre à la croix, fait cette prière pour nous aujourd'hui. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes, un, moi, en eux, et toi, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est ce que Jésus demande. Et si Jésus le demande, c'est que c'est accompli. Quand Jésus demande quelque chose au Père, le Père le donne. Il sait ce que le Père veut pour nous. Et justement, dans Éphésiens, juste quelques versets plus haut, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Comprenons bien cela. L'unité, nous l'avons déjà. Ce que nous devons faire, c'est la conserver. L'unité de la foi est la façon dont nous la vivons. Ce n'est pas juste de dire « Ah, on est unis, on est un ». Mais comment est-ce qu'on le vit concrètement dans le quotidien ? Est-ce que c'est facile ? Non, non, carrément pas. Et l'unité chrétienne, la paix chrétienne, ce n'est pas le monde des bisounours, en fait, où il n'y a pas de problème, en fait. C'est justement ça, l'idée. C'est un lieu où rien, où tout n'est pas parfait, en tout cas pas pour le moment, mais c'est pas parce que les gens voient que les difficultés sont résolues par Dieu qui sont attirées. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème. On peut cacher plein de problèmes, mais montrer que c'est Dieu qui les résout, c'est ça qui touche. Et justement, je vous parlais de cet exemple qui est l'exemple des apôtres. Regardez juste le nombre de fois où Jésus a dû reprendre les apôtres parce que certains voulaient avoir une meilleure reconnaissance que les autres. Jésus a été trahi par quelqu'un qui a vécu avec lui pendant 3 ans, qui a vécu plein de choses extraordinaires, y compris des miracles. Pierre a renié Jésus 3 fois et les autres se sont carrément enfuis. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon à Jésus de sa lâcheté. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a confié la responsabilité de toute l'équipe apostolique. Ce qui est important, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. On apprend beaucoup en tombant. Paul a dû recadrer Pierre en public, car il ne se comportait pas de la même manière lorsque les Juifs étaient présents ou non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Qu'est-ce que fait Pierre, pourtant? Pierre, dans une lettre, défend Paul et dit que Paul dit toute la vérité. Et Paul? Paul et Barnabas se sont séparés car ils n'étaient pas d'accord du tout, mais violemment, concernant un homme qui s'appelle Marc. Paul ne voulait pas reprendre Marc dans l'équipe missionnaire parce que Marc les avait abandonnés. Est-ce que vous avez déjà vécu un abandon comme ça dans l'église? Vous aviez confié quelque chose à quelqu'un et vous dites « Oh, finalement, je ne peux pas le faire ». Ou même il part au loin. Et Barnabas a voulu réintégrer Marc dans l'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont divisés. Ça donnait 2 équipes. Mais au final, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Marc, il a rédigé l'évangile selon Marc. En côtoyant Paul, en côtoyant Pierre. Et on considère que c'est l'évangile le plus ancien qu'on a à disposition. Il a sans doute encouragé des milliers d'églises dans l'histoire. Mais encore plus fort, Paul, à la fin de sa vie, demande à Timothée de prendre Marc avec lui pour le rejoindre dans sa prison à Rome, en disant qu'il est précieux à l'œuvre de Dieu. Qui peut faire ça? Qui peut relever les gens comme ça? Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui. Est-ce que Dieu peut les résoudre? Carrément. Ce n'est pas une unité facile. Des relations faciles, humainement, c'est pas possible, en fait. Si on était un club sportif, en fait, je pense qu'on serait déjà tous éparpillés depuis longtemps, en fait. En 30 ans, connaissez un club sportif où il y a autant de personnes? Mais nous avons à reconnaître que c'est Dieu qui change nos cœurs. Que c'est lui qui nous emmène à reconnaître nos torts et surtout notre manque d'amour. La vérité dont il est question, c'est l'évangile. Pas seulement les connaissances, les paroles, mais surtout l'évangile qui est vécu. Notre modèle en tout cela, c'est Jésus qui a démontré tout son amour, tout son pardon, déjà pour moi personnellement, pour chacun d'entre nous personnellement, mais pour notre Église en entier aussi. C'est difficile en fait à se l'avouer, encore moins à le pratiquer. Mais notre unité, elle n'a pas de limite dans l'Église. Ce n'est pas nous-mêmes qui définissons la limite de notre unité. Nous ne pouvons pas définir la limite de notre unité sur notre voisin de gauche ou de droite. Ne vous tournez surtout pas. Notre histoire ou notre caractère. Mais notre limite dans l'amour, notre limite dans l'unité, c'est Jésus lui-même. Ne regardons pas ce qui est facile. Ne regardons pas nos limites. Ne regardons pas nos forces. Mais regardons à Jésus. La croissance de l'Église, elle est d'abord qualitative, c'est-à-dire qu'on doit grandir en progrès en fait, dans la façon de connaître Jésus et la façon de le représenter. Mais elle est aussi quantitative. Lorsque des personnes voient que nous vivons de la même manière que Jésus nous le demande, des personnes sont attirées et veulent vivre cela. Lisez le livre des Actes. Nous ne voulons pas faire de généralisation et Dieu permet parfois qu'il y ait des églises où il y ait des personnes qui soient vraiment zélées et pourtant il n'y a personne qui vient. Mais souvent quand même, les deux sont liés. En tout cas, nous avons à faire ce que nous avons à faire, le reste appartient à Dieu, c'est lui qui sait tout. Jésus lui-même fait grandir son église comme lui le souhaite. Nous, notre responsabilité, c'est d'enlever les obstacles. Et ne pas être un obstacle nous-mêmes, surtout. Nous ne voulons pas brouiller le témoignage de l'Évangile parmi nous. Plus nous connaissons Jésus, plus nous mettons d'énergie à lui ressembler. Plus notre témoignage de vie sera percutant pour nos amis, nos familles. Une église sans problème, sans difficulté relationnelle, ne cherchez pas, ça n'existe pas. Le plus beau témoignage à la gloire de Jésus, une preuve de notre maturité spirituelle, ça consiste à nous demander pardon, à changer d'attitude. Conserver l'unité, c'est ressembler de plus en plus à Jésus et contribuer à la croissance de notre Église parce qu'on l'a choisi, pas par hasard, parce qu'on l'a choisi. Et cela, ça passe par la vérité, la croissance par la vérité. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour. La vérité de la parole de Dieu est une encre. C'est là où nous sommes fixés. La vie chrétienne est exigeante et cela nécessite d'avoir une encre qui est solide. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous faisons ce que la Bible nous demande de faire, ce que Dieu nous a donné comme étant sa volonté. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu pour choisir notre orientation. C'est un élément qui est fondamental pour ne pas être des petits-enfants qui, en fonction de leurs émotions, de leurs histoires, de leurs relations ou du charisme d'un faux enseignant ou d'un leader malhonnête, se laissent détourner de la volonté de Dieu. Vous savez, combien d'églises ont connu des divisions sur des questions de fausses doctrines ? La recherche de manifestations qui ne trouvent aucun fondement biblique. Je vous en donne quelques-unes. L'évangile de la prospérité. Si tu donnes de l'argent, tu recevras au centuple. Ça ne marche pas, je vous confirme. La pensée positive. Choisis Jésus comme coach de vie. Ce que Jésus nous demande, c'est d'être le chef de ma vie, pas mon coach. Le royaume maintenant. Nous sommes déjà parfaits. Je vous confirme que non. L'évangile de la déité de l'homme. L'homme est un dieu. Mes amis, personne n'a marché dernièrement sur l'eau. La négation de la déité de Jésus, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus, pour certains, c'est seulement un prophète. Mais si Jésus est un vrai prophète, c'est que ce qu'il dit est vrai, y compris lorsqu'il dit « Je suis le Fils de Dieu ». La dernière vague, il pleut des paillettes d'or durant le culte. Bah, je vous assure que ça ne marche pas, parce que sinon il y aurait beaucoup plus de personnes qui voudraient faire le ménage dans l'église. Je pense même qu'on aurait des batailles à la fin du culte. Servir avec les anges. Pour servir Dieu, nous devons parler aux anges. Bah, je vous propose qu'on parle d'abord à nos voisins. Le fait de sortir en esprit. Nous devons lutter spirituellement en sortant de notre corps. Les sorties astrales sont des pratiques occultes. L'impossibilité de réels miracles. Jésus n'a pas vraiment accompli de miracles, c'est qu'une portée philosophique. Vous avez déjà entendu ça ? Mes amis, la philosophie n'a jamais eu autant de témoins oculaires de miracles que Jésus. Énoncer comme ça, ça peut faire sourire. Mais combien d'églises ont été brisées par la recherche de quelque chose de plus de l'Évangile ? Comprenez-moi bien, nous croyons aux miracles, nous croyons aux guérisons miraculeuses, nous prions, nous imposons les mains, nous réalisons l'onction d'huile sur les membres qui le demandent, comme c'est demandé dans l'épître de Jacques. Nous demandons à Dieu d'accomplir de grandes choses parmi nous. De même, lorsqu'une pratique ne se trouve pas dans la Bible, nous ne la pratiquons pas. Il n'y a qu'une seule signification dans l'Écriture, c'est celui que l'auteur a voulu et a transmis. C'est là que, pour des points secondaires qui ne touchent pas directement aux doctrines fondamentales, vous savez, la personne de Dieu, Jésus, le salut, l'Église, typiquement ce que vous retrouvez dans la confession de foi, en tout cas la nôtre, voilà, c'est l'essentiel, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais nous pouvons concevoir que des personnes aussi remplies du Saint-Esprit que nous, aussi sincères et aussi instruites, puissent aussi interpréter différemment la pensée de l'auteur. Mais si cela crée de la division, c'est qu'il y a un problème quelque part dans la démarche. Ce n'est pas possible. Et ce que nous voudrions vivre, sur l'essentiel, nous voulons l'unité. Concernant les points secondaires, nous laissons la liberté. Et en toute chose, nous prenons l'amour. Une des marques de notre maturité consiste à faire le tri entre ce qui est essentiel, ce qui est secondaire. Ça prend du temps, ça nécessite de connaître la Bible, ça nécessite de l'expérimenter pour pouvoir faire le tri entre qu'est-ce qui est indiscutable et ce où on peut comprendre que des personnes puissent comprendre les choses différemment. Communiquer non pour avoir raison personnellement, mais pour l'édification de l'Église. Dire la vérité, même lorsque cela nous coûte, ce sont les marques de la maturité spirituelle. Dire la vérité dans l'amour nous conduit à la croissance. Et la croissance, elle est conduite par l'amour. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Éviter les discussions délicates et difficiles peut pour le moment, en court terme, en fait, nous sembler beaucoup plus rentable, mais dans la durée, cela va nous mener à l'isolement. On sera toujours obligé de fuir des personnes. Et il y a un proverbe, dans le livre des proverbes, dans la Bible, qui dit cela. « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Appliquer cette démarche, c'est obéir à Jésus, c'est accepter de grandir, c'est vouloir ressembler à Jésus, c'est être un témoignage authentique de notre amour pour Jésus, de notre amour pour l'Église. La vie chrétienne est exigeante, c'est pas facile, mais les résultats, même si nous ne les voyons pas toujours, à court terme, ils sont précieux. Ne négligez pas ça. Peut-être on peut galérer pendant des semaines, des mois et des années sur quelque chose. On ne voit pas le résultat, mais l'investissement que vous y avez mis, c'est précieux pour Dieu. Plus nous regardons à Jésus, plus nous l'imiterons. Plus nous l'imiterons, plus nous lui ressemblerons. Plus nous lui ressemblerons, plus nous lui rendrons gloire et honneur. Et c'est ce que nous voulons vivre dans notre Église. Je prie que nos actes, nos attitudes et nos paroles soient cohérentes avec ce que Jésus nous demande. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? Jésus est la tête. La tête fait référence à l'autorité, la direction, c'est lui qui décide, qui exerce sa volonté. Et dans notre Église, nous voulons que ce soit Jésus qui soit la tête, qui nous dirige. Mais je vous propose aussi de le voir un peu dans le sens organique, comme on a commencé. Vous savez, la tête, dans cette illustration, elle a une fonction organique. Vous savez, on a beau avoir des cuisses de cycliste, un torse de rugbyman, des bras d'haltérophiliste, des doigts de pianiste, des poumons d'apnéiste, un cœur de marathonien, si la tête est détachée du corps et ne coordonne pas tout cela, ça ne sert à rien et en plus vous êtes mort. Si Jésus n'est pas la tête de l'Église, on a beau avoir de la joie, des activités et être content d'être entre nous, mais ça ne sert à rien. Ce qui fait la puissance du corps n'est pas les dirigeants ou un organe en particulier, mais l'ensemble du corps qui est coordonné par Jésus. Cela ne nie aucunement l'effort que chacun doit produire. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir mal au doigt de pied. Vous savez, le gros orteil. En plus, ça se paraît une fois qu'il, par exemple, il est coupé, on perd vraiment l'équilibre facilement. Mais en tout cas, ça fait mal. Et en fait, quand on ne pose pas son pied, au bout d'un moment, on commence à tirer sur l'autre jambe. Après, ça commence à faire mal au dos. Puis après, ça commence à faire mal dans la nuque. Au final, on commence à avoir mal partout. On est en galère, on n'arrive plus à se déplacer. Cela démontre que chaque organe doit être à sa place, que chacun est essentiel pour le bon fonctionnement du corps dans son ensemble. On peut se permettre de boiter un moment, mais au bout d'un moment, il faut que ça se redresse. Et je rejoins aussi les commentateurs qui interprètent que les jointures font référence aux leaders de l'Église. Leur rôle est de montrer à chaque membre son importance. Les leaders ont une responsabilité importante pour emmener chaque membre dans le même mouvement, être eux-mêmes déjà un exemple de ce mouvement. Et ce que nous souhaitons, c'est orienter par nos leaders, nous souhaitons nous impliquer pour que le corps du Christ, notre Église, elle croisse en unité et en maturité. Les leaders doivent avoir une vision d'ensemble et viser le bien général de l'Église sur le long terme. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on aide nos leaders à nous aider. Est-ce que vous êtes d'accord d'aider nos leaders à nous aider ? Les jointures sont les points de convergence qui vont propulser l'ensemble du mouvement. Et c'est là aussi où il y a les points de friction, hein. C'est là où il y a le tibia et la cuisse avec les os qui vont percuter. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est ça qui va emmener tout le corps dans le mouvement. Et la croissance dépend de l'ensemble du corps, l'implication de chacun des membres. Ce n'est pas une question de méthode ou de technique, mais une implication personnelle pour un mouvement qui est coordonné, canalisé par les jointures et voulu par la tête. Et l'idée maîtresse pour la croissance, c'est la proximité, l'intimité, la soumission mutuelle et surtout la soumission à Jésus. Comprenons bien que la croissance ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de la vitalité interne du corps. Notre croissance d'église ne dépendra pas de ce qui se fait à l'extérieur, mais elle viendra de nous, de l'intérieur, de ce que Dieu nous a confié à nous. Si nos muscles n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, notre croissance, elle sera pénalisée. Rappelons-nous que l'objectif de la croissance est de ressembler à Jésus, de mettre le maître mot dans tout ça, c'est l'amour. Si on veut grandir, on a besoin de pratiquer l'amour, pas juste dire « je t'aime », mais le pratiquer. Et notre Église, elle veut grandir par l'amour de Jésus, qui se manifeste aussi dans nos relations. Mes amis, en missiologie, donc c'est des personnes qui étudient l'Église depuis des siècles maintenant, ils définissent en fait trois critères pour une Église majeure. L'autogestion spirituelle, c'est-à-dire que l'Église, avec ses membres et avec ses responsables, ils sont en situation de gérer en fait la plupart des situations spirituelles, voire exceptionnelles, en interne, et aussi, quand on se trompe ou quand on prend les bons choix, de les assumer après. C'est l'autonomie des gestions, c'est-à-dire avoir qu'il y ait des serviteurs, qu'il y ait du temps qui soit disponible pour le bon déroulement des services et fonctionnement de l'Église en général, la gestion des finances aussi, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de finances extérieures, mais qu'on puisse par nous-mêmes gérer l'ensemble de nos finances, y compris justement après nous-mêmes aider d'autres qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Et l'autopropagation, c'est-à-dire la multiplication, c'est-à-dire de nouvelles conversions, des disciples qui se forment pour grandir spirituellement, de nouveaux leaders, de nouveaux groupes de vie, des groupes de maison, des groupes de jeunes, et à terme, de nouvelles églises. Et c'est ça qu'on veut vivre. Et pour vivre cela, le modèle que nous avons vu dans ce texte, c'est la croissance par la diversité, la croissance par le ministère, la croissance par l'unité, la croissance par la vérité, la croissance par l'amour. La famille grandit ensemble pour ressembler à Jésus. Est-ce que dans les dernières semaines ou les derniers mois, c'est une question assez personnelle, est-ce que j'ai grandi spirituellement, personnellement? Est-ce que notre Église a grandi spirituellement? Qu'est-ce qui aujourd'hui est un frein dans ma croissance spirituelle ou dans la croissance de mon Église? Et je vous propose pour conclure, simplement lire dans Romains, chapitre 12 et dernier verset du chapitre, qui nous dit cela. « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, c'est-à-dire que tu lui donneras la vie parce qu'il n'avait plus le feu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et ce matin, je nous appelle à cette réflexion. Si nous ne sommes pas en règle avec Dieu, dans nos relations, dans notre consécration, prenons ces versets au sérieux. Ne sortons pas de ce lieu comme nous y sommes rentrés. Faisons ce qui est nécessaire ou prenons l'engagement de le régler, peut-être avec un témoin même. Prenons l'engagement de régler cela dans les jours qui viennent. N'attendons pas des semaines et des mois. C'est important. Et vous savez, l'un des lieux les plus adaptés aussi pour croître spirituellement et pratiquer ce que Jésus nous enseigne, c'est dans les petits groupes. C'est pour ça que nous tenons dans notre Église à ce que les personnes qui fréquentent régulièrement l'Église participent régulièrement à des petits groupes, les groupes de femmes, peut-être bientôt les groupes d'hommes, les groupes de jeunes, jeunes adultes, les collégiens, les groupes de maison, les groupes de croissance. Le fait de s'engager avec Dieu va nous amener à mettre Jésus en première place dans les différents aspects de nos vies. Ne compartimentons pas famille, travail, Église. Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt concentrique. C'est Jésus, famille, Église. Et après, le reste va découler de ça. Peut-être pour certains d'entre nous, le premier pas pour rentrer dans cette démarche-là, c'est de demander le baptême, de manifester notre désir de mettre Jésus en premier dans notre vie et de manifester notre obéissance. Pour d'autres, c'est peut-être de demander à devenir membre administratif de l'Église pour pouvoir contribuer à la croissance de l'Église, y compris dans les décisions. Et lorsque nous grandissons, cela se voit. Nous avons de plus en plus confiance en Jésus. Nous obéissons de plus en plus à Jésus. Nous ressemblons de plus en plus à Jésus et nous avons plus d'amour, plus d'humilité, plus de patience, plus de joie, plus de ferveur. Nous accompagnons d'autres personnes à rencontrer Jésus, à grandir. Nous servons les autres membres de l'Église. Nous aimons de plus en plus l'Église et nos amis et nos voisins. Nous faisons de moins en moins des choses pour nous-mêmes, mais de plus en plus pour Jésus, l'Église et nos amis. Et la valeur pour notre Église est celle-ci. Croissance. Notre Église grandit en maturité. Nous croyons que les authentiques disciples de Jésus aspirent à une croissance continue et manifestent par leurs actions être dirigés par le Saint-Esprit. L'Église est un lieu privilégié pour nous encourager et nous instruire les uns les autres. Et je vous propose de prier pendant ce temps que l'équipe se met en place pour... Et Seigneur, on veut te remercier parce que ta parole est précieuse. Ta parole est une épée à double tranchant qui sait séparer la moelle des os, qui peut séparer nos pensées, nos émotions et ce qui nous détourne de toi. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que ta parole, Seigneur, soit tranchante dans nos vies pour que nous te ressemblions davantage. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse être des chrétiens qui sommes radicaux pour toi. Seigneur, ne nous laisse pas flottants ou comme des petits enfants, mais permets-nous, Seigneur, de grandir en maturité, que nous assumions avec joie ce que tu nous as confié ici, dans ton Église et dans cette région. Seigneur, s'il te plaît, convainc-nous de pécher si c'est nécessaire. Convainc-nous que nous sommes utiles, que tu veux que nous soyons participants de ton œuvre ici. Seigneur, s'il te plaît, permets que dans notre Église, les relations soient bâties sur toi. Permets, s'il te plaît, qu'il y ait des demandes de pardon, qu'il y ait des réconciliations et qu'il y ait l'amour. Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous à te ressembler davantage. S'il te plaît, mon Dieu, fais grâce à ton Église. Fais-nous grâce. Je te remercie pour l'amour que tu déposes dans nos cœurs, pour toi, pour ton Église, pour nos frères et sœurs, et pour tous ces milliers d'habitants qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas. Je te prie dans le nom de Jésus, exauce-nous, s'il te plaît. Amen.